2 novembre 2021, autre édition du podcast Le Relève, un peu plus intime cette fois, alors qu'il y a seulement que Martin Thériault et moi-même, Anthony Desaulniers, qui vous accompagnent pour cette autre édition du podcast. Marty, édition qu'on veut un peu tourner sur la OHL, on veut vraiment axer ça sur les joueurs du prochain repêchage qui sont éligibles. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur les différents prospects qui seront repêchés lors du prochain encamp de la LNH, bien, restez avec nous. Parce qu'on fait vraiment un tour d'horizon de la OHL. Marty, comment ça va cette semaine? En forme?
Moi, ça va super bien. Je te relance l'appareil. Comment ça va, Deso? C'est pas facile nécessairement de suivre. C'est pas facile d'être amateur de hockey au Québec ces temps-ci. Comment qu'on endure ça?
Ben honnêtement, c'est pas si pire que ça. Moi, personnellement, je me dis, j'ai eu la chance de vivre l'émotion et les sensations fortes du Canadien en finale de la Coupe Stanley. Je suis capable d'endurer une saison plus difficile, surtout compte tenu du fait que si on finit 11-12, c'est ce choix-là qui va quitter pour les Coyotes de l'Arizona. Donc, moi, je suis dans l'équipe. On ne fait rien, on vend et on accepte le fait que cette saison-là va être difficile et on espère repêcher un bon joueur parce qu'on le sait, Martin, dans les dernières années, ce n'était pas les repêchages les plus solides. Je ne dirais pas que celui-là est extrêmement bon non plus, mais par contre, il y a plusieurs bons joueurs au sommet de la pyramide. Et si le Canadien se retrouve à repêcher, par exemple, 8e, il y aura encore des bons joueurs de disponibles à ce rang-là. Donc, moi, je suis dans l'équipe statu quo et vendre et repêcher haut. C'est ce que je propose là, pour cette saison.
Et pourquoi pas un petit Shane Wright à Montréal, ce serait bien. Je pense que ça donnerait un bon spectacle aux gens au centre Bell.
Mais Marky, parlons-en de Shane Wright parce que on le sait, Shane Wright, c'était le premier choix incontesté par plusieurs. Tout le monde le voyait dans leur soupe. Sans dire que ce n'est plus le cas, parce que je ne pense pas nécessairement que ce n'est plus le cas. Mais par contre, il y a des gens qui commencent à soulever des interrogations. Est-ce que Shane Wright pourrait être délogé du premier rang du prochain enquête?
Tu vois, c'est intéressant. Tu vois, tu regardes ses statistiques, tu dis 8 points, 8 matchs. La réputation qu'on fait à Shane Wright depuis qu'il a été nommé joueur exceptionnel à titre de joueur de 15 ans dans la OHL, c'est de se dire à son année 17 ans, tu dois pas seulement être bon, tu dois être archi-dominant. Je peux même te prendre des joueurs qui n'ont pas été exceptionnels, là, mais dans les dernières années qui ont été choisis premiers au total. Là, supposons Alexis Lafrenière, tu revois sa saison de repêchage, très très grosse saison. Je peux remonter à Connor McDavid, là c'est dans d'autres ligues, là, mais Austin Matthews en Suisse avait été excellent. Tu sais, là, je sais que je nomme des grosses vedettes, mais c'est parce que c'est à ça qu'on s'attend de Shane Wright. Et présentement, on voit 8 points, 8 matchs. On demeure un peu sur notre appétit. Donc, j'avais vraiment hâte de le voir jouer cette année. J'ai pu l'observer pour la première fois la semaine dernière. Je dirais, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je te dirais, tu sais, comment on doit décrire Shane Wright? C'est un Patrice Bergeron. Qui a un excellent lancer. C'est vraiment comme ça. Il est très, très bon dans les deux sens de la patinoire. Défensivement, se replie bien, supporte souvent ses défenseurs, puis ça permet de faire d'excellentes sorties de zone. Ça, je n'ai pas détesté ça, et je pense qu'il a quand même obtenu quelques chances de marquer, justement, en raison de son lancer. Mais c'est assez indéniable également que les adversaires voient venir ce dit lancer-là. Là. Souvent, ils sont positionnés pour le bloquer et il est obligé de décocher un peu ses tirs en périphérie, si tu veux.
Je mais sais pas Marty, ça. Tu parles de son lancer, puis c'est vrai qu'il a un excellent lancer, mais il a quand même une excellente vision de jeu. C'est un joueur qui comprend bien la game. Il a un bon IQ offensif. Comment ça se fait que ce joueur-là, à 16 ans, a établi des marques exceptionnelles alors qu'il était un joueur justement exceptionnel dans la OHL? Comment ça se fait que là, plus tard, alors que c'est son année de draft, c'est plus difficile? Est-ce que ça se pourrait qu'il soit un peu écrasé par la pression de savoir que tout le monde le regarde?
Je sais pas, je pense pas. Là. Il faut prendre en considération également, à 16 ans, il n'a pas joué. Il a joué au championnat du mondial des moins de 18 ans, mais il n'a pas joué en raison de la fameuse COVID. Je veux pas, c'est une année de développement quand même assez importante. Là. À 16 ans, c'est là, surtout lui qui l'avait joué à 15 ans, c'est là que tu t'attends à ce qu'il connaisse une énorme bonne progression parce que ben, tu sais davantage à quoi t'attendre, tu sais davantage quel adversaire t'affronte. Tu sais davantage comment t'entraîner surtout. Puis t'es moins surpris un peu par le calibre de jeu qu'on t'offre. Et en principe, entre 15 et 16 ans, il aurait dû avoir une progression. Mais là, dans son cas, il n'a même pas eu de hockey. Donc, je pense qu'il faut y aller un petit peu mollo avec lui, si on veut. Eh bien, pour revenir un peu au style de jeu, ses partenaires de trio, c'est Martin Kromiak, que honnêtement, j'adore. C'est un de mes espoirs favoris du repêchage 2020. Mais Martin Kromiak, c'est pas quelqu'un qui a une énorme vision de jeu. C'est surtout un gars qui a un bon lancer, qui est un marqueur. Et son autre compagnon de trio, c'est Matthew Soto, qu'on va peut-être jaser davantage l'an prochain. Lui, c'est un joueur de 16 ans qui est admissible au repêchage de 2023 et qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas un joueur exceptionnel comme un Connor Bedard, par exemple. Donc, tout ça pour dire, je ne pense pas que la rondelle vient souvent sur sa palette de bâton. Si tu veux. Il y en décoche de lancer, il y en a des chances, mais je pense qu'il va peut-être davantage se sentir obligé de passer la rondelle. Ça peut peut-être expliquer certaines choses là, quoi, par rapport à Shane Wright.
Oui, évidemment, j'ai mentionné à 16 ans, mais vous aurez compris que sa saison de joueur exceptionnel ne l'a pas joué à 16 ans, mais bien à 15 ans, où est-ce qu'il avait quand même récolté 66 points en 58 matchs. Puis là où est-ce que ça, je suis un peu intrigué par ça, Marky, parce que c'est pas une équipe de pied de céleri, là. C'est quand même une équipe qui a énormément de talent en attaque. Comment ça se fait que Shane Wright, qui justement, lui, devrait être une machine à points cette saison, n'arrive pas à produire avec autant de bons éléments offensifs?
Ouais, ben, c'est l'autre interrogation que je me demande. Là, ça, c'est une hypothèse, puis je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on va peut-être le voir faire moins de points qu'un joueur comme Alexis Lafrenière. Je me souviens de Lafrenière, là, son année de 17 ans au niveau junior. C'est vraiment par lui que la production offensive se porte. En d'autres mots, là, si Lafrenière se blessait, l'Océanique de Rimouski, ça allait être pas mal plus difficile. Là. J'ai rien contre des Cédric Paré, des Dimitri Zavgorodny, mais c'était des joueurs qui étaient tirés par Alexis Lafrenière et qui jouaient avec lui. Tu avais un Zachary Bolduc qui était très bon, mais Zachary Bolduc avait 16 ans. Il n'était pas encore capable de prendre la charge de travail, si tu veux. Donc, je pense qu'il était moins entouré. Dans le cas de Shane Wright, tu regardes leur équipe et là, le match que j'ai vu, j'ai pu constater honnêtement que cette équipe-là a honnêtement trois très bons trios. On s'entend, là, on parle d'un joueur exceptionnel, donc Shane Wright a quand même du temps de glace. Mais tu vois, je pense que son dernier match a joué 29 minutes. Un de ses derniers matchs, du moins, là, mais contre Ottawa. Mais sinon, là, c'est à peu près tous en 19 et 20 minutes. Je le sais que pour des attaquants de premier plan dans la LNH, c'est quand même beaucoup. Mais au niveau junior, c'est habituellement ces joueurs-là archi-dominants, les entraîneurs-chefs, les utilisent à profusion et à profusion. Et ça, leur temps de glace ressemble justement davantage à 29-30 minutes. Mais là, dans le cas de Kingston, ce qui est complètement différent ici, c'est qu'on a trois bons trios. Il y a un autre trio sur lequel on utilise deux joueurs de 20 ans et on utilise Francesco Arcuri, qui est un espoir que j'ai quand même pas détesté dans le repêchage 2021, qui manque un peu d'éthique de travail, mais le talent est quand même là. Et ce trio-là, présentement, va super bien. Donc, si tu es l'entraîneur-chef, peut-être que tu dis « OK, je dois y aller davantage à trois trios ». Et là, je n'ai même pas parlé du troisième trio, que tu as un autre espoir intéressant, Paul Ludwinski, qui est un centre, et tu as un joueur de 16 ans encore, Christopher Thibodeau, qui lui, d'après moi, est un espoir de premier tour pour le repêchage 2023. Donc, je pense que ça enlève des opportunités un petit peu à Shane Wright de produire un peu davantage, tout simplement parce qu'on a un autre trio très dominant, chose qu'on n'a peut-être pas vue dans les dernières années avec les équipes de certains gros espoirs. Peut-être un peu Connor McDavid, là, mais Connor McDavid, c'est un...
Ouais, c'est un autre game.
C'est un autre spécimen.
Fait que dans le fond, si je te comprends bien, c'est l'abondance de talent qui fait en sorte que parfois, lors d'un dégagement refusé de l'adversaire avec des joueurs fatigués sur la patinoire, c'est pas nécessairement le trio de Shane Wright qui va sauter sur la glace pour tirer avantage de cette situation qui est en faveur là, de Kingston. Mais ça reste que moi, je m'attends à ce qu'il soit en mesure de se replacer. Ce gars-là a trop de talent pour faire seulement qu'un point par match dans la OHL. Ce gars-là devrait tout de même sortir au premier tour. Ça, c'est une évidence. Là. Mais au premier rang, toi, si tu avais un 2$ à mettre aujourd'hui, tu estimes à combien de pourcentage le fait qu'il va sortir premier par rapport au fait qu'il y ait un upset et qu'un joueur, là, un Miroshchenko, là, se glisse au premier rang?
Ouais, non, ben écoute, je vais te mettre avec toi. Mettons, au début de la saison, j'aurais mis un 2$ sans hésiter. C'est comme ça, va être sûr à 100%. Maintenant, tu regardes, puis honnêtement, le consensus pour dire qu'il va être repêché premier, c'est plus là. Je ne serais pas à l'aise de mettre un 2$ présentement. Et je trouve que les risques seraient trop grands. Honnêtement, je pense qu'on en est là. Je vais être honnête avec toi, cependant, je vais devoir le regarder davantage. Mais il y a une petite chose qui m'a peut-être dérangé chez Shane Wright Et je trouvais qu'au championnat mondial des moins de 18 ans, ça me laissait un petit peu sur mon appétit. C'est son esprit de compétition. Il a énormément de talent. Il se positionne très, très bien. Il fait tous les bons petits détails. Mais je trouvais qu'il manquait peut-être un... Tu sais, Connor Bedard, je crois qu'il l'avait, le chien. Lui, quand le gros moment, il se présentait. Puis Shane Wright s'est présenté aussi, mais plus d'une façon un peu plus naturelle parce qu'il est tout simplement très talentueux. Et encore dans le match que j'ai pu regarder, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit peu de chien, un petit peu de mordant. Ça, c'est peut-être le bémol que j'ai et que je vais... Puis j'ai... C'est un match. Peut-être que je suis tombé sur le match que ça ne paraissait pas. Là. Je vais devoir regarder, puis j'ai bien hâte de voir les autres matchs pour voir si ça va ressortir davantage. Et là, si honnêtement, tu constates un manque d'implication et de caractère dans son cas, mais là, le problème, c'est que tu as d'autres excellents espoirs qui poussent derrière lui. Tu as un Joachim Kemmel, tu as un Ivan Miroshnichenko, tu as un Mathieu Savoie. Ce sont tous des joueurs de talent. Et si ces gars-là, moindrement qu'ils se développent comme il faut et qu'ils ont en plus des statistiques pour appuyer, ben, le débat commence à être là. T'sais.
Mais ça revient à ce que tu disais tantôt. Je pense que ce sentiment d'urgence n'est peut-être pas présent en ce moment dans sa game parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables de contribuer. Mais à un certain moment dans la saison, c'est ton draft year, tu veux te prouver. Moi, je suis convaincu que Shane Wright va finir par exploser. Et moi, je vais le mettre le 2$. Moi, je pense qu'il va sortir premier au prochain repêchage. Du moins, pour l'instant... J'ai pas assez été convaincu par les autres joueurs, un peu comme l'année dernière avec Owen Power. J'ai pas eu l'impression que quelqu'un est en mesure de le déloger, même si Shane Wright, pour l'instant, c'est un peu plus difficile. Moi, je continue à penser qu'il va sortir au premier rang. Marky, tu l'as un peu effleuré. J'aimerais ça quand même qu'on s'attarde à Kingston. Il y a quand même une belle équipe. Il y a quand même plusieurs joueurs là-dedans qui seront repêchés. L'autre joueur de centre qui est éligible au draft, c'est Paul Ludwinski. C'est quand même un joueur de centre qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, qui va dans les coins. Est-ce que tu peux t'attendre à ce que ce joueur de centre-là pourrait causer des surprises là, au repêchage?
Oui, ben c'est intéressant. Je viens de te nommer à peu près, je t'ai fait grosso modo le topo un petit peu de l'équipe de Kingston. Ben, Paul Ludwinski, par la force des choses, se retrouve au centre du troisième trio. Ça veut dire moins d'opportunités, ça veut dire beaucoup moins de temps de glace et ça veut aussi dire que tu es dans l'ombre. Tout le monde va surveiller. En fait, ça va être les deux extrêmes. Soit qu'il va être trop regardé et qu'il va sortir vraiment très tôt parce que tout le monde va regarder Shane Wright tout le temps et là, ben, ça va donner qu'un Paul Ludwinski va prendre la présence suivante, justement, à la place de Wright. Ça peut faire complètement l'inverse de dire « OK, on regarde beaucoup trop Shane Wright et on oublie l'autre parce qu'il n'y a pas les opportunités, il n'y a pas le temps de glace, il n'y a pas les partenaires de trio. » Moi, je vous le dis encore, Martin Kromiak, je l'adore. Je pense que pour obtenir des... pour améliorer tes chances, là, je pense qu'un gars comme lui, c'est parfait pour jouer avec Shane Wright. Christopher Dubodeau, il est très bon, mais c'est un joueur de 16 ans. Je pense que ça aide moins Paul Ludwinski. Cependant, je suis Paul Ludwinski. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, les séquences que j'ai vues. Là. Comme tu as dit, là, c'est un petit centre, mais quand même assez énergique, se positionne bien en zone défensive, appuie beaucoup ses défenseurs. Il y a de l'énergie. Là. Souvent, il est impliqué en zone adverse, va créer de l'échec avant. Je l'ai trouvé très bon là-dessus et par moment, j'ai même repéré un certain sens offensif. Tu sais, des petits gestes que c'est pas mal seulement les joueurs offensifs qui sont capables de faire. L'exemple que je vais te donner, c'est qu'il est devant le filet. Il y a un défenseur qui le couvre. Puis, à la dernière minute, il va tout simplement changer sa position pour se mettre en position, en position libre. Puis, il obtient tout de suite la rondelle. Ça permet d'obtenir une chance de marquer. Il n'y a pas compté. Sauf que ça, c'est des petits gestes que les joueurs offensifs qui sont très bons font très bien. T'sais, profiter de la petite fraction de seconde que tu as d'espace supplémentaire pour obtenir une chance. Moi, j'ai beaucoup aimé ça pour Ludwinski. J'ai bien hâte de le suivre. Là. Encore là, c'est un match, puis je peux finalement constater que c'était infondé un peu ce que je pense. Mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu, et honnêtement, pour l'instant, je pense que c'est un des espoirs de tout le repêchage que j'aime beaucoup, honnêtement.
Ah, mais je sais qu'on est très tôt dans le début de la saison, mais c'est un peu ça qui est notre plaisir ici au podcast La Relève. Ça va être de suivre les espoirs ligue par ligue tout au long des semaines pour s'amener justement jusqu'au prochain repêchage. Donc, c'est bien correct si notre opinion change parce que les joueurs aussi vont évoluer tout au courant de la saison. Et ce sera le cas, évidemment, pour Ludwinski. Marty, t'en as parlé. Je le sais qu'il est déjà repêché, mais j'aimerais ça quand même qu'on en parle. Ça vaut la peine. Martin Kromiak connaît quand même un bon début de saison et il a notamment fait le move, le cross, il n'y a pas si longtemps.
Fait le lacrosse move, mais tu l'as vu la vidéo, là, écoute, ça c'est premièrement, il a fait son tour du chapeau avec un Michigan, puis c'était le but gagnant, c'est quand même quelque chose, là, honnêtement. Là.
Non, exact. Puis lui, ça a été un excellent coup. Tu sais, je veux dire, c'est quand même bien un choix de cinquième tour des Kings, là. Il y a plusieurs équipes qui ont passé dessus. Finalement, je regarde ses chiffres, il y a déjà 11 points en 8 rencontres. Est-ce que ça reste satisfaisant, 11 points en 8 rencontres, considérant qu'il avait fait quand même 33 points en 28 matchs il y a 2 ans? Donc, est-ce qu'il y a une réelle progression dans sa game?
Mais oublie pas qu'il a obtenu 3 buts. Donc là, ça va peut-être changer. Là, il était davantage. Puis il joue avec Shane Wright. Donc, il a à peu près les mêmes statistiques que Wright, tu sais. Mais moi, je l'adore beaucoup simplement par les détails qu'il apporte dans son match. T'sais, premièrement, il est maintenant très, très gros. Là. C'est un 6 pieds 2 pouces, tu viens de le voir. Moi, ce qui m'impressionne davantage, je pense que c'est ce but-là, le premier. Tu vois à quel point il y a un lancer, un excellent lancer sur réception à l'Alexander Ovechkin. Là. Ça, c'est un détail qui est peut-être un peu sous-estimé dans son cas, justement parce qu'il n'y a pas de statistiques. Mais honnêtement, il est capable de décocher des lancers. Tu le vois encore sur le deuxième but, là. Si quelqu'un est capable de lui remettre la rondelle dans la LNH avec les Kings, moi, je pense sérieusement que ça peut faire du dommage. Et non seulement ça, il est très combatif également. C'est pas rare. Moi, je me souviens du le match que j'ai regardé de Kingston. Première présence, pédale au plancher, vole la rondelle à l'adversaire. Ça permet de créer un revirement et d'effectuer une relance. Il est très acharné et il a beaucoup de talent en plus. Son défaut, c'était son coup de patin et j'ai trouvé, sans dire que c'est le meilleur de la planète, là, j'ai trouvé qu'il l'a quand même amélioré à ce niveau-là. Donc, moi, honnêtement, je comprends pas. J'ai vraiment du mal à m'expliquer comment ça, un Martin Kromiak s'est retrouvé repêché au cinquième tour par les Kings de Los Angeles. Moi, selon moi, là, c'est un véritable vol, honnêtement, là, des Kings. Puis moi, je l'adorais beaucoup, là, son année de repêchage, là. Pas autant que Simon Boisvert l'avait 10e, mais moi je l'avais à peu près 17-18. J'adorais ce joueur-là. Je pensais que c'était un potentiel espoir de deuxième tour. Mais finalement, il a glissé. Puis comme je te dis, honnêtement, je ne comprends pas parce que selon moi, il y a du talent, il y a le gabarit. Moi, il m'a semblé travailler fort. Je sais qu'il y avait des interrogations chez certains par rapport à sa constance. Là. Mais moi, selon moi, tout est là, au moins. Si tu ne le repêches pas au deuxième tour, au moins, il prend une chance au troisième tour. Mais bon, c'est les Kings qui sont bien contents de cette sélection-là.
On a vu la vidéo qu'on a partagée, notre écran, le fameux tour du chapeau de Kromiak. Ça a été posté sur notre page Facebook. Petit aparté, là, page Twitter. On s'est parti un Twitter. On vous invite à nous suivre. Podcast La Relève. On commente pratiquement tous les jours. On y va de plusieurs... analyse au quotidien. On le sait, Martin, tu es quelqu'un qui suit vraiment ça beaucoup et tu y vois ton opinion sur une base quotidienne. On vous invite les gens à nous suivre via la page Twitter et à interagir avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos différentes questions.
On est actifs pas mal. On suit vraiment, on essaie d'être vraiment vos yeux, vos oreilles partout dans le monde des espoirs. Vous allez voir, j'en dis même peut-être un peu plus qu'ici là, sur des joueurs... qui peuvent être assez obscurs par moment.
Excellent. Puis, honnêtement, on s'amuse avec ça. Donc, si vous avez envie de vous amuser avec nous, on vous invite à le faire. Podcast La Relève sur Twitter. Marty, on a parlé beaucoup de Kingston. J'aimerais ça qu'on se tourne vers le Storm de Guelph parce qu'il y a aussi plusieurs joueurs qui sont intéressants dans cette équipe, à commencer par Daniel Zilkin. C'est quand même un joueur qu'on avait vu l'an dernier, au moins des 18 ans. Bon, honnêtement, il n'avait pas le même rôle que Shane Wright. C'est une évidence. C'était plus un attaquant de profondeur. Mais ça reste un joueur qui possède tout un tir. Puis ça, je pense que, et comme tu l'as répété à plusieurs reprises, quand tu as une qualité exceptionnelle, tu peux faire des dégâts dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que Zilkin a un assez bon lancer pour se démarquer dans la LNH?
Ben, sans aucun doute qu'il y a un excellent lancé. Là, si ce joueur-là débarque dans la LNH, sans aucun doute que c'est un atout dans son jeu. Mais de là à dire que ça va devenir un marqueur dans la LNH, ça, je vais me garder une petite gêne. Je suis pas certain. C'est beau d'avoir un lancé, mais ça te prend le sens offensif également. Et je suis pas certain qu'il l'a tout à fait. Il m'a laissé un peu sur mon appétit sur le sens offensif là, d'amener, de créer des chances de marquer. De foncer, il est capable de foncer au filet, il a un bon gabarit, mais j'ai pas trouvé qu'il l'a fait sur une base assez régulière, du moins pas comme les meilleurs espoirs de ce repêchage-là, pas comme un Shane Wright, pas comme un Matthew Savoie, pas comme un Joachim Kemmel, tu sais. Il m'a laissé un peu sur mon appétit. Tu sais, je vais prendre une comparaison à Montréal, puis là, les deux joueurs ne sont pas pareils du tout. Mais tu sais, Yessi Ilonen, qui est en ce moment avec le Rocket de Laval, tout le monde s'entend pour dire qu'il va jouer dans la LNH. Il a un excellent lancer. Il est utilisé en avantage numérique souvent à Laval. Du moins, je ne sais pas cette année, mais l'an dernier, c'était le cas. Et pourtant, je pense qu'on est, on est capable de s'entendre pour dire que Kilonen ne sera pas un marqueur de 25-30 buts à cause de son lancer, parce que les aptitudes offensives ne sont peut-être pas autant là que pour un joueur à haut potentiel offensif. Je pense que c'est un peu la même chose dans le cas de Danny Jilkin. Cependant, je pense qu'il y a des beaux atouts, justement. Il y a un bon gabarit, il protège super bien la rondelle. Il joue bien défensivement, il se replie quand même beaucoup, supporte beaucoup ses défenseurs. Puis il y a un certain potentiel pour fabriquer des jeux un petit peu, même si moi, ça me... je pense que j'aimerais en voir davantage pour le classer un peu plus haut. Là. Mais tout ça pour dire que je pense que ça peut être intéressant. Là, tu sais, au deuxième tour, un genre de joueur bon dans les deux sens de la patinoire, un genre de joueur de troisième trio, je pense qu'un Danny Shelkin peut être intéressant pour une équipe. On verra bien, là, mais pour l'instant, ça peut être... Il y a eu une très bonne fin de semaine, tu vois, pour les points. Là, je pense qu'il a obtenu 5 points en 2 matchs, quelque chose comme ça. Donc, ça en dit assez long. Tu sais.
En fait, il y a 8 points depuis le début de la saison là, en 10 parties, mais c'est un joueur qui sort quand même bien de son gabarit. Peut-être parce que c'est un late. Est-ce que ça va finir par le rattraper, le fait qu'il ait développé... il est plus mature physiquement que ses adversaires pour le moment. Penses-tu que ça va se transposer à la Ligue nationale plus vers une faiblesse parce qu'il aurait déjà atteint son potentiel tout simplement plus rapidement que les autres?
Ouais, mais tu sais, ce que je dirais surtout par rapport au late, c'est que, bon, là, c'est différent à cause de la COVID, il n'a pas pu jouer la saison dernière, là, mais dans un monde normal, ce serait sa troisième saison. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si ça fait 3 ans que tu es dans le même circuit, ben c'est sûr que c'est plus facile d'avoir dominé un petit peu qu'un espoir que ça fait 2 ans. Je peux prendre un joueur de la même équipe, Mathieu Poitras, lui a 17 ans. Lui, c'est sa deuxième année. Puis tu sais, dans les rangs de hockey mineur, c'est un peu la même chose. Les joueurs late sont toujours un peu... sont toujours dans le calibre supérieur une saison sur deux. Je le sais, je peux te le dire personnellement. Moi, désolé, j'ai un de mes amis qui est né en octobre, un de mes très, très bons amis. Puis lui, un an sur deux, se retrouvait dans le calibre supérieur parce qu'il est pratiquement un an plus vieux que moi. Ouais.
C'est la même chose pour moi.
Exactement. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a une journée de différence avec toi d'anniversaire. Mais bon, on pourra en rediscuter. Là. Mais tout simplement pour dire que lui, ça lui donne une chance de jouer un an sur deux avec des meilleurs joueurs et de se développer. Jilkin, je pense que c'est un petit peu la même chose. Bon. C'est simplement que l'analyse, il faut que tu pousses un peu plus l'analyse et ta réflexion. OK, est-ce que ça peut influencer les choses? Là, honnêtement, tu n'as pas le choix d'y penser. Tu n'as pas le choix de dire OK, peut-être que je vais le classer 3 ou 4 rangs plus tard, parce que j'aime d'autres joueurs qui sont plus jeunes et qui ont un an de moins de développement. Tu penses que la courbe, l'upside, si tu veux, là, peut peut-être être meilleure. T'sais.
Mais on n'était pas censé en parler, mais tu as mentionné Mathieu Poitras, puis je serais curieux de t'entendre parce que je regarde ses chiffres, il y a des meilleurs chiffres, mais par contre, j'ai l'impression qu'il est moins talentueux. Est-ce que c'est parce qu'il ramasse des passes par la bande? T'sais, je veux dire, à la première impression, j'ai pas l'impression que Poitras m'en donne autant que Jilkin. Est-ce que je suis dans le champ, Marty?
Ben non, t'es pas dans le champ. Ben, c'est difficile à expliquer. Honnêtement, entre les deux, là, je te dirais, comme lequel je vais mettre dans ma liste, honnêtement, présentement, c'est un énorme casse-tête dans ma tête. Je ne suis pas certain du tout de mes trucs. Là. Mais c'est que Poitras, je le trouve plus dynamique, un petit peu. Je trouve qu'il y a un petit peu plus de fougue, un petit peu plus dans les coins, etc. Mais en attaque, je pense qu'il m'en donne encore moins. Il est plus petit que Danny Shelkin. Même si c'est un bon joueur défensif, là, mais je trouve qu'il est moins talentueux défensivement. Il a moins de gabarit qu'un Danny Shelkin. Donc, présentement, je suis obligé de dire OK, je pense que je vais placer Shilkin devant, mais je te reviens avec l'âge. Mathieu Poitras, lui, ce n'est pas un late. Il est beaucoup plus jeune. Donc là, tu dis OK, si tu amènes un Poitras à 18 ans, parce que c'est un peu la comparaison que tu dois faire, versus Shilkin en ce moment, qui a 18 ans, pas 18 ans, il va l'avoir au mois de décembre, mais qui va jouer la majorité de sa saison à 18 ans, ben, c'est une énorme. Une réflexion que tu as à faire parce qu'honnêtement, l'écart est très, 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 très minime. Mais moi, ce que je te dirais dans le cas de Mathieu Poitras, c'est que, tu sais, quand je te reviens avec la qualité exceptionnelle, tu sais, Danny Shelkin, pour protéger la rondelle, il n'est peut-être pas exceptionnel, mais il est bon. Tu sais, c'est quelque chose qui ressort vraiment dans son jeu. Poitras, on dirait que j'ai du mal à trouver quelque chose, justement, d'exceptionnel et j'ai tendance à penser que c'est ce genre de joueur-là qui peut jouer dans la LNH, mais qui devient un genre de joueur. Trop bon pour la Ligue américaine et peut-être pas assez pour la LNH, du moins. Pour l'instant, là, je te dirais, j'ai peut-être vu 2 ou 3 matchs. Là. On va voir avec le au fur et à mesure de la saison. On peut peut-être s'améliorer, nous en montrer davantage, mais pour l'instant, je te dirais, il me laisse un peu sur mon appétit.
Bon, tu viens de mentionner, joueur fait tout relativement bien, sans rien faire d'exceptionnel. Je veux qu'on se transpose en défense, toujours avec le Storm de Guelph. Michael Boutchinger, c'est un joueur qui, honnêtement, tu le regardes, ne semble pas avoir de problème. Il fait toutes les bonnes petites choses, les bons petits détails, bon coup de patin, physique, IQ, mais rien à tout casser. Ah, quand même, par contre, ça porte de points depuis le début de la saison pour un défenseur. C'est quoi ton évaluation de Michael Boutchinger, Martin?
Mais c'est intéressant, on parle de Guelph depuis peut-être une dizaine de minutes, là, puis c'est ça, c'est un club qui est intéressant à suivre cette année parce que ils ont au moins quatre joueurs qui ont des statistiques et qui sont projetés pour sortir quand même assez tôt au prochain repêchage. On a parlé de Poitras, on a parlé de Shilkin et on n'en parlera pas cette fois, là, mais tu as Jake Carabella qui est un joueur de petit gabarit qui a quand même des statistiques intéressantes. Et le premier match que j'ai regardé de Guelph, je surveillais davantage Shilkin. J'essayais de surveiller les autres, mais d'un angle peut-être un peu plus distrait, si tu veux. Et j'ai remarqué, plus je regardais le match, plus j'étais porté vers le numéro 4, le défenseur gaucher, qui est justement Michael Boutchinger. Tu peux regarder sur Elite Prospect toutes les listes. Il n'est pas classé nulle part. Les gens ne le...
Je pense qu'il passe au premier tour. Il n'est pas classé nulle part au premier tour.
Non, exact. Il passe un peu sous le radar. Les gens n'en parlent pas vraiment. Donc, je me dis, OK, est-ce que c'est un... Moi, il me semble très bon. J'aime son coup de patin. J'aime son sens offensif. Même défensivement, même s'il n'est pas 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, je trouve qu'il tient son bout. Il gagne souvent ses batteurs. Il relance souvent la rondelle. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça donne? Je vais aller voir la liste de la centrale de recrutement de la LNH ou comment elle trouve, tu sais. Puis, il était classé B, soudainement. C'est quand même un espoir de 2 à 3e tour. Donc, ça veut dire que la centrale... tu sais, je vais prendre une comparaison, mais dans la LHMQ, Marcus Vinicek, que j'aime beaucoup, est classé C. Donc, selon la centrale, Boutchinger est meilleur qu'un Marcus Vinicek, par exemple. Et donc, moi, je fais, OK, c'est intéressant. Mais tout ça pour dire que j'ai regardé 2 ou 3 matchs, puis je suis pas capable d'enlever mes lunettes rouges. Je l'adore, honnêtement. Là, c'est ça, comme je te dis. Offensivement, il est bon. Il est capable d'envoyer des rondelles au filet, capable d'appuyer l'attaque en avantage numérique. Défensivement, il tient bien son bout. Capable de transporter la rondelle également. Ne s'en laisse pas imposer physiquement. Non, honnêtement, là, je l'aime beaucoup. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses. Là. Et je te dirais quasiment qu'ils ont Daniil Tchaïka, eux, le Guelph, dans leur défense. Le gros défenseur russe qui a été repêché au 2e tour par les Golden Knights au dernier repêchage. Je pense que j'ai pratiquement préféré Boutchinger à Tchaïka. Tchaïka, on s'entend, les qualités naturelles, il y en a beaucoup plus. C'est un défenseur beaucoup plus gros, beaucoup plus physique. Mais tu vois, Tchaïka faisait beaucoup de revirements. Par contre, ça, j'aimais pas nécessairement ça. Tandis que Boutchinger, il était toujours très, très fiable. Moi, honnêtement, j'ai hâte de le suivre. Puis, habituellement, je me trompe pas trop là, quand je vois un joueur comme ça qui me tape à l'œil. D'après moi, ça devrait être un de mes coups de cœur du prochain repêchage. Là, je pense que c'est quelqu'un que je vais peut-être avoir plus haut que pas mal tout le monde. Mais on verra bien. Là. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup.
Tu faisais la comparaison avec Tchaïka. C'est quand même pas un pied de céleri non plus, Boutchinger. À 6 pieds, 185 livres. Là, oui, c'est vrai que c'est pas un géant, mais à ton année de repêchage, quand même un gabarit qui est imposant sur la patinoire. Particulièrement pour un défenseur, là, je pense qu'il est capable de servir de son corps pour diriger l'ailier vers la bande ou encore de repousser l'attaquant devant le filet. Là. Mais oui, il va être intéressant à suivre avec ses 8 passes depuis le début de la saison.
C'est certain, c'est simplement que, tu sais, je pense que les Canadiens de Montréal l'avaient en finale de la dernière Coupe Stanley avec des défenseurs comme Edmundson, comme Ben Sherratt, comme Shea Weber à 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Tu sais, on l'a vu le dernier repêchage, beaucoup de défenseurs de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces qui ont été repêchés. On nous dirait qu'on a comme mis l'emphase davantage sur le gabarit et surtout que ces défenseurs-là maintenant ont pratiquement tous de bons coups de patin, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 10 ans. Là. Donc, c'est pour ça que je disais ça un peu. Okay, il n'y a peut-être pas le gabarit à 6 pieds 3 pouces. Là, mais
non, je sais ce que tu disais. Je disais juste que tu sais, il y a 17 ans. Fait que, tu sais, ça se peut là, qu'il n'y a encore pas encore la maturité pleine là, de laquelle il va atteindre dans quelques années. Je veux simplement souligner que ce n'est pas un défenseur de 5 pieds 9 non plus.
Mais tu apportes un excellent point, par contre. Il y a 17 ans, il est 6 pieds. Logiquement, tu peux le voir à 6 pieds 1, 6 pieds 2 pouces dans la LNH ou dans la Ligue américaine. Donc, c'est un point important. À 6 pieds 2 pouces, là, tu es pas mal moins petit que si tu es à 6 pieds, tu sais. s'entend.
Ben oui, non, exact. Un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec Chromiak, je pense que c'est important de parler d'un joueur qui a déjà été repêché, parce que moi, c'est un joueur que j'aurais aimé que le Canadien ramasse l'année dernière. C'est Sacha Pastujov, parce que ça a été finalement un choix de troisième tour. Encore à ce jour, je ne comprends pas. Pourtant, c'est un joueur qui avait énormément de hype autour de lui. Plusieurs listes le projetaient fin de premier tour. Ne serait-ce que début deuxième tour, finalement, ça a été début troisième tour. Et là, tu sais, je regarde ses statistiques. Je pense que de mémoire, il a 10 buts en 10 parties depuis le début de la saison, 17 points. C'est un joueur qui produit à la hauteur de son talent. Est-ce que les équipes de la Ligue nationale l'ont échappé, Marty, en le laissant glisser jusqu'au troisième tour?
Non, honnêtement, c'est... Premièrement, moi, je... ben, pas que j'étais content, là, mais je comprenais la décision de la... Je comprenais pourquoi il a peut-être glissé troisième tour par les équipes, pourquoi certaines formations ont peut-être eu peur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, il apporte des points au tableau. Oui, tu sais, avec le programme américain des moins de 18 ans la saison dernière, c'était le meilleur pointeur, là, de loin, il avait d'excellentes statistiques. Puis ça a toujours été le défi avec lui de dire, OK, il y a d'énormes statistiques maintenant. Pourquoi il y a autant de statistiques? Et on dirait qu'il obtient ses points de façon... il sort pas nécessaire. Il a du talent offensif, c'est pas ça que je dis. Là. Il a une bonne vision de jeu, il a un flair pour le filet, là, ça c'est vrai. Je suis pas certain que ses qualités offensives se transposent bien pour le jeu de la LNH. Il a tendance à obtenir ses points. Je vais te donner un exemple. Là. Il y a un des matchs de Guelph que j'ai vu. Jouant à l'avantage numérique à gauche, mais des tirs en périphérie. Mais comme tu es dans les rangs juniors, je ne veux pas manquer de respect aux joueurs de la OHL ou de la LHMQ ou de la WHL.
Mais non, mais c'est bien correct. Là, on le sait.
Mais il y a des joueurs moins talentueux, tout simplement. Des gardiens qui vont donner moins de bons buts, des défenseurs qui vont peut-être moins bloquer les lancers parce que tu es moins bien positionné. Et moi, j'ai l'impression de dire que j'ai l'impression que Pastujov amasse beaucoup ses points de cette façon-là. Je ne suis pas quelqu'un nécessairement qui va dans le trafic, qui va s'impliquer, qui va récupérer des rondelles. C'est un genre de joueur offensif, mais qui ne s'implique pas nécessairement et qui a tendance à jouer un peu en périphérie. Dans les rangs juniors, quand tu joues un avantage numérique avec des joueurs qui ont un peu de difficulté dans le positionnement, ben là, ça marche, tu obtiens des points, puis c'est vrai qu'il y a du talent. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne se transpose pas tout à fait dans la LNH. Et même les matchs que j'ai vus de Guelph, là, il a été bon, il a montré quelques séquences, mais je pense que j'ai vu d'autres matchs de d'autres équipes de la OHL et j'ai préféré. Tu sais, un Chromiak, par exemple, Chromiak m'a tombé davantage dans l'œil qu'un
Pastujov. Exact. Okay, je te relance, Marty. Le Canadien de Montréal avait deux choix de deuxième tour. 63e, Riley Kidney, 64e, Oliver Kapanen. Pastujov est sorti 66e. Donc, deux rangs avec les Canadiens j'ai choisi. Si c'était à refaire aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on sait, est-ce que tu prendrais, même si ça ne semble pas être ton favori, est-ce que tu le prendrais quand même devant un Oliver Kapanen, par exemple?
Je ne prendrais pas. Je vais me fier à ma liste, là, tout simplement. Là. Je prendrais Kapanen devant Pastujov, mais je prendrais Pastujov devant Riley Kidney, tu vois. Okay. Riley Kidney, on dirait
que... Malgré son bon début de saison dans la GMQ.
Ouais, mais c'est parce qu'on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui m'a cloche, je trouve, avec Riley Kidney. Il a tendance à garder la rondelle très longtemps, puis perd souvent la rondelle. Ça crée quand même quelques revirements et c'est pas le plus gros, même s'il est combatif, là. C'est pas le plus gros. Donc, c'est pour ça que moi, je le classais un petit peu plus bas, en tout cas. Par rapport à un Pastujov, du moins, là, Pastujov, il y a quand même s'il y a certains trucs que j'aimais moins, il est quand même bourré de talent. Tu n'avais quand même pas le choix de le placer fin de premier tour dans une liste. Alors que Kidney, en raison de ce petit détail-là, sa propension à commettre des revirements un petit peu. Et là, je me disais, ben, peut-être que dans la LNH, là, ces jeux offensifs, ça va moins fonctionner. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis un petit peu plus bas. Là. Alors qu'un Kapanen, lui, je l'adorais. Mais en fait, c'est ça qui est drôle. Kapanen est plus bas dans ma liste et c'est possible qu'au deuxième tour que j'aurais pris un Kapanen devant un Pastujov parce qu'il y a des qualités. Parfois, le cœur a ses raisons que la raison refuse de croire. Là. T'aimes plus certains petits détails. Tu dis, ah, je vais prendre une petite chance sur ça. J'aime mieux prendre une chance sur ce joueur-là par rapport à telle qualité plutôt que l'autre joueur qui me laisse un peu sur mon appétit. Donc, puis des fois, honnêtement, ça peut faire d'excellents coups. Tu sais.
Bon, si Pastujov n'est pas sorti fin de premier tour, ça pourrait être le cas de cet espoir à Marty Panofimis. Il y a certaines personnes qui, pour l'instant, le mettre, on s'entend, c'est au crayon de plomb, là, à la fin du premier tour. Est-ce que tu es d'accord avec ces prédictions-là pour le jeune joueur de la OHL?
Tout d'abord, tu as un stylo, ça c'est la première des choses, on peut pas, on peut pas changer les
c'est
trucs.
C'est un excellent point.
Ouais, c'est une petite blague, mais par rapport à Paamo Fémis, j'avais vraiment hâte de le voir jouer, parce que Paamo Fémis, de ce que j'ai vu, avait obtenu une excellente... Pour la petite histoire, là, l'équipe Canada Junior, normalement, participe au tournoi préparatoire pour le championnat mondial des moins de 20 ans du côté des États-Unis. Mais là, en raison de la COVID, Hockey Canada a décidé de garder ses espoirs potentiels pour le championnat mondial à Calgary pour le camp estival. Mais on a intégré les moins de 18 ans à travers tout ça. Donc, c'est pourquoi un panneau féministe était là. C'est pourquoi, je pense que c'est Gavit Goyette qui était là également, là, l'attaquant des Wolves de Sudbury, un autre bon espoir.
Du Québec, oui.
Exact. Et Paamo Fémis, de ce que j'ai vu, a quand même amené un petit peu de point au tableau. Avait été bon. J'ai pas pu regarder les matchs, j'avais pas accès. Mais c'est pour ça que j'avais hâte de le voir dans la OHL. Je voyais qu'il était classé fin de premier tour dans certaines listes. Et de ce que j'ai pu voir, je pense qu'il y a il est énergique. Je pense qu'il y a... Il y a une éthique de travail, pas une éthique de travail, je veux dire, je pense qu'il est énergique, justement. Je pense qu'il y a un certain sens offensif. Je te dirais que son coup de patin m'a agacé un petit peu. Je ne suis pas certain qu'il y a un excellent coup de patin très explosif. Ça, je pense que ça lui nuit un petit peu. C'est pas le joueur le plus gros gabarit non plus. Et par
on s'entend que dans la Ligue nationale, si tu n'es pas gros et que tu n'as pas de patin, en 2021, c'est beaucoup plus difficile. Ça va un peu ensemble, là, ces deux attitudes-là. Là. Il faut que tu compenses par le patin, généralement, lorsque tu n'es pas très gros.
Non, exactement.
À quelques exceptions près. Là.
Non, c'est ça, exactement. Puis, je te dirais, puis là, ça, il faudrait que je vois davantage de matchs. Parce que tu vois, j'ai lu des rapports qui disaient que Paamo Fémis était quelqu'un d'énergique, de très travaillant. Moi, il m'a semblé honnêtement parfois se traîner les pieds sur la patinoire. Il m'a semblé... Par moment, oui, l'effort est là, mais ça ne me semblait pas nécessairement constant. Il avait la tendance à attendre que le jeu vienne à lui plutôt que de forcer les choses. Là. Ça m'a peut-être agacé un petit peu. T'sais. Donc, on va voir. Là. Pour l'instant, je te dirais qu'il m'emballe peut-être un peu moins que... On a parlé de Paul Glodwinski. Je pense qu'il ne m'emballe pas nécessairement au même titre que ce gars-là. Et peut-être que je prends un Chilkin et un Poitras devant lui. On verra comment la saison va évoluer, mais pour l'instant, il m'a laissé un peu sur mon appétit.
Est-ce que tu prends Bryce McConnell-Barker devant lui? Je le sais que c'est un joueur que tu aimes beaucoup, puis c'est un joueur que, honnêtement, je n'ai pas entendu beaucoup parler, mais j'ai quand même vu sur Twitter une personne qui s'est prononcée à l'effet de dire que ça pourrait être la potentielle recrue de l'année dans la OHL. Bon, ça, encore une fois, ça peut être des hot takes, des gens qui peuvent faire tout simplement réagir, là, parce que c'est la beauté de Twitter et d'Internet. Mais l'attaquant de Sault-Sainte-Marie, quand même, il amasse sa part de points depuis le début de la saison. C'est même un gars que Craig Button a présentement 21 sur sa liste. Donc, c'est pas non plus un pied de céleri.
C'est pas un pied de céleri non plus. Puis, tu sais, il faut prendre un bémol avec le titre de recrue de l'année dans la OHL. Il faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas eu de saison la saison dernière. Donc, tous les joueurs de... Et Shane Wright a joué une saison à 15 ans. Donc, le titre de recrue de l'année enlève Shane Wright. Il a déjà joué en partant. Là, par la suite, tu sais, ce qu'on nomme un peu en ce moment, la cuvée de la OHL, et là, un Chilkin a joué également, donc t'enlèves Chilkin également. La cuvée de la OHL, en quelque sorte, oui, il y a de bons espoirs, je pense qu'ils sont un peu tous classés fin de premier tour, mais c'est pas comme, on va probablement parler de la WHL dans les prochaines semaines. La WHL, là, t'as deux ou trois gros espoirs qui sont potentiels top 10, top 15, top 20. La OHL, il y en a peut-être un peu moins. Je pense que c'est... Il y a un bon défenseur, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais à l'attaque, et souvent c'est une affaire de points, là, les titres de recrue de l'année, ben je pense que c'est plus partagé. Donc c'est pourquoi parfois il y a du monde qui peuvent dire que McConnell-Barker a peut-être une chance. Et McConnell-Barker, l'autre truc avec lui, il joue dans une excellente équipe. Les Sioux Greyhounds, c'est une des meilleures équipes de la OHL. Il, par la force des choses, il joue avec un excellent joueur de centre. Il joue avec Tanner Dickinson, un espoir des Blues de Saint-Louis que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça se pourrait qu'il joue avec l'équipe américaine au championnat du monde de hockey junior. T'sais. Je pense que ça l'aide. Cela dit, tu as raison pour McConnell-Barker. Moi, je l'adore vraiment beaucoup. Présentement, Je sais que je l'ai dit avec Butchinger, mais je pense que j'aime encore plus McConnell Barker. Il a un excellent coup de patin, quand même un gabarit intéressant, 6 pieds 1 pouce, très énergique, il est toujours, toujours la face dans le visage de l'adversaire, en échec avant. Il est très bon à ce niveau-là. Je ne suis pas certain de son sens du hockey toujours. Je pense que parfois, il effectue vraiment de mauvaises passes, il ne regarde pas nécessairement ses options, puis ça commet quelques revirements. Et ça, je sais que c'est des habitudes parfois qui sont difficiles à se débarrasser. C'est pas quelque chose de facile à travailler. Donc ça, il y a un peu ce bémol-là, mais je trouve qu'il en apporte tellement quand même sur le plan de la vitesse. Et il y a quand même un sens offensif, même si parfois son hockey IQ peut lui jouer des tours. Là. Je pense qu'il y a quand même un potentiel offensif. Je pense que il y a un beau potentiel top 6, honnêtement, je trouve, là. Gabarit puis vitesse, tout est là. Donc, j'ai bien hâte de le suivre, honnêtement.
Je ne veux pas faire une comparaison boiteuse, Marty, mais monsieur, madame, tout le monde qui regarde un match de hockey, sans se mettre des yeux de scout ou d'essayer d'analyser chaque joueur, je trouve que c'est le genre de joueur qui ressort. Parce qu'on le voit, comme tu l'as dit, par son échec avant, il va crasher le filet, il est tout le temps bien impliqué, mais il n'y a pas nécessairement la plus grande vision de jeu. Est-ce qu'une comparaison boiteuse, ça pourrait être un peu Josh Anderson? On le sait que c'est un joueur qui aime foncer au filet, on le sait que c'est un joueur qui a de la vitesse. Mais quand c'est le temps de repérer le coéquipier qui est en retrait, c'est pas sa force. On est-tu loin de ça ou c'est pas du tout ça?
Ben, c'est sûr que c'est pas un attaquant de puissance comme Josh Anderson. Josh Anderson, c'est quand même quelqu'un qui rentre au filet, qui utilise son énorme gabarit pour se créer des chances. Je pense pas que. Puis c'est drôle parce que Josh Anderson, je l'ai vu jouer en personne même lorsqu'il était avec les Knights de London. Non, je pense que pour le même âge, Josh Anderson était quelqu'un qui jouait plus lourd, là. Quelqu'un qui justement protégeait sa rondelle, qui fonçait davantage au filet. Et Josh Anderson, tu sais, donc j'aurais tendance à dire que Josh Anderson était peut-être un petit peu plus lourd, peut-être plus le profil d'attaquant de puissance, tandis que. Mais Connor Barker, je pense que c'est davantage un joueur de plus. Anderson a de l'énergie aussi, mais je veux dire, c'est plus un joueur d'énergie, moins peut-être réputé pour son côté physique.
C'est mis en échec, il a distribué des coups d'épaule.
Ouais, exactement. Il travaille fort, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui va terminer ses mises en échec et frapper tout le monde.
T'sais. J'ai quand même hâte de le suivre là, tout au long de la saison. Puis comme je le disais d'entrée de jeu, c'est quand même un joueur qui a des potentiels recrues de l'année avec des grosses guillemets. Là. Il a présentement 4 buts, 7 points en 11 parties, mais je pense qu'il va démontrer de belles choses tout au long de la saison.
Mais comme je te dis, il joue avec le sous-grade. Honnêtement, les amateurs de hockey junior, là, peu importe si vous suivez les espoirs ou pas, je pense que les sous-grounds sont une très belle équipe. Ils ont un joueur qui s'appelle Rory Cairns, qui a déjà été repêché. Et lui pourrait obtenir une assez grosse saison. Lui, c'est vraiment à surveiller dans son cas.
Marty, j'aimerais ça qu'on aille du côté de North Bay parce qu'il y a un défenseur qui honnêtement, lui, tantôt on parlait de gabarit, lui, il a un gabarit plus ou moins commun. Là. C'est Ty Nelson à 5 pieds 10, 195 livres. Il n'est peut-être pas le plus grand, mais il est costaud. Et il joue costaud. C'est un joueur qui ne va pas nécessairement faire les choses les plus flashy sur la patinoire, mais il fait les beaux jeux, les bons petits jeux, simples, efficaces. Travaille très fort, honnêtement. C'est le genre de défenseur, je pense, qu'il va avoir une bonne chance d'avoir une bonne saison là, avec North Bay.
Écoute, je pense que c'est Sam Cosentino qui disait que c'est un bulldog. Et honnêtement, si je ne sais pas si tu as eu la chance de voir des photos ou des vidéos, là, c'est ça. Là. Honnêtement, là, il est petit, mais vraiment, vraiment très trapu. Honnêtement, c'est pratiquement un bulldog. Il faut quasiment aller le promener le matin. Mais tu sais, honnêtement, c'est ça. Je pense que c'est une belle manière de le décrire, un bulldog. Là. Il n'est pas gros, mais il joue gros. Honnêtement, ça, je ne suis pas certain que ça va se transposer dans la LNH. Là. C'est quelqu'un de très physique. Il n'a pas peur d'appliquer la grosse mise en échec sur les adversaires. Ça peut être... du moins du côté de la Ligue junior de l'Ontario, je pense que ça peut intimider les adversaires. Là, dans la LNH, il faut que tu transposes un peu ça. Là, tu as davantage d'attaquants de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces de gros gabarit. Là, à dire que tu vas renverser tout le monde avec une mise en échec à 5 pieds 10 pouces, je suis pas certain. Je pense qu'il va tenir son bout et on va lui appliquer de la pression, puis il va être capable de l'endurer, mais pas de là à être intimidant. Maintenant, pour le côté de rendre les jeux simples, tu as raison, désolé. Honnêtement, je pense que c'est sa plus belle qualité. Les jeux viennent rapidement. Tu le sais à quel point j'aime les joueurs qui prennent des décisions rapidement. Là, je trouve que c'est difficile même si tu es dans la LNH, là, c'est difficile pour un joueur parfait défensivement de faire un geste en une seconde parce que tu précipites tes jeux. Encore faut-il que tu réussisses tes jeux, là. Pas que tu rates tes passes, mais j'aime les joueurs qui vont prendre des décisions rapidement. Et lui, c'est le cas. La rondelle ne reste pas longtemps sur son bâton. Il a un bon flair offensif. Il a souvent tendance dans un match à vouloir appuyer l'attaque, profiter de l'ouverture pour créer un surnombre, là. Ça va lui arriver assez souvent. Et il envoie la rondelle. Non, il est très, très énergique. Honnêtement, c'est un bel espoir. Ça va être intéressant à suivre dans son cas. Il va-tu être capable de continuer à progresser, d'amener beaucoup de points au tableau? Ça va être intéressant.
Puis, il avait été repêché au premier tour là, de la OHL là, en 2020. Puis, j'avais même lu une comparaison de Craig Button qui disait, quand je dis premier tour, je veux dire premier au total, là, first overall. Et j'avais même vu une comparaison de Craig Button qui disait que Ryan Ellis était comparable au même âge. Donc, ça pourrait être intéressant à suivre là, pour Ty ouais. Nelson.
Puis, ouais, la comparaison n'est pas folle, honnêtement. Ryan Ellis, tu sais, même si c'est un joueur de petit gabarit, là, vous le pouvez le surveiller avec les Flyers. C'est quand même un joueur qui ne s'en laisse pas imposer. C'est pas quelqu'un qui se laisse tasser. Je pense, par contre, que le en tout cas, on verra bien, là, peut-être que Ty Nelson peut se tailler un poste avec l'équipe canadienne junior par surprise, mais il va falloir attendre. Là. Ryan Ellis, son année de repêchage, il avait un énorme palmarès international. Il avait quand même joué avec les moins de 20 ans, puis il avait été très bon. Et je ne suis pas certain que Ty Nelson va se rendre là, mais c'est vrai que la comparaison est belle, pour vrai. Là.
J'aimerais ça, Marty, qu'on ait avec les Coles de Barry, parce qu'eux aussi, ils ont quelques joueurs intéressants à surveiller, en commençant par Hunter Hight. Qui est un joueur qui... Et honnêtement, j'ai un peu de la difficulté à mettre la traduction française, là, mais je dirais qu'il est tenace, c'est quelqu'un qui ne triche pas. C'est un joueur qui joue de la bonne façon, c'est un peu ça, finalement?
Ben, c'est un joueur de sur 200 pieds. Ça, il n'y a aucun doute. Là. Encore là, toujours le premier à supporter ses défenseurs, c'est une qualité numéro un chez un centre. Fermer l'espace à l'adversaire lorsque tu es en zone neutre, ça, il est excellent également. Je veux dire, il est toujours replié, toujours... Il est quand même toujours assez bien positionné. Ça, c'est intéressant. Et ça, j'ai hâte d'en voir davantage, mais j'ai pu repérer un petit peu de sens offensif également. Il a tenté une passe à un moment donné, une passe derrière son dos. Ça n'a pas fonctionné, mais ça montrait quand même qu'il savait que le joueur était là. Il l'a raté de pas grand-chose. Puis ça montre que je pense qu'il peut avoir un certain sens, pas un sens offensif, mais une vision de jeu, si tu veux. Maintenant, encore là, je pense que dans le même cas que Zichelkin et dans le même cas que Poitras, sur le plan offensif, peut-être que j'aimerais en voir davantage. Mais sur le plan défensif, tout est là, tout va super bien. Et je pense que c'est une belle preuve, une belle marque de confiance également. Là, les Coles de Barry ont quand même des joueurs comme Ethan Cardwell et Evan Veerling dans leur rôle important au centre. Là. Et pourtant, le match que j'ai pu regarder, Hunter Hight était utilisé. C'était lui qui commençait les périodes. Là. Peut-être pas nécessairement le premier trio en termes de qualité, mais c'est lui qui commençait les périodes sur le premier trio. Donc, je pense que ça, moi, honnêtement, c'est toujours un signe que j'aime beaucoup. Il n'y a pas meilleure référence qu'un entraîneur-chef qui côtoie ses joueurs jour après jour après jour à coup de 14-15 heures par jour. T'sais. Et si l'entraîneur se sent assez confiant pour envoyer un joueur de 17 ans prendre une mise en jeu initiale pour commencer les périodes, ben c'est parce qu'il y a d'excellentes aptitudes qui plaisent à son entraîneur. Tu sais.
Ouais, puis il n'y a pas des pieds de céleri quand même avec les Coles de Barry. Là, deux choix de premier tour l'année dernière dans cette formation-là, notamment Brent Clark, qui, on le sait, Marty, est un de tes préférés au repêchant. Je vais finalement glisser au 8e rang avec les Kings de Los Angeles. Et on retrouve aussi Oscar Olsson, qui lui a été repêché un peu plus loin. Un petit mot rapide sur ces deux joueurs-là. Qu'est-ce que tu penses de leur début de saison?
Ben honnêtement, c'est plaisant de voir Olsson. Olsson, c'est un espoir que j'aimais beaucoup dans le repêchage 2021. Tu sais, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne l'aimaient pas vraiment, le plaçaient au deuxième tour, mais moi, j'ai toujours aimé son... je trouve qu'il y a de bonnes mains, il y a un bon sens offensif, il va utiliser ses mains parfois pour faire bouger le gardien de but, puis ça permet d'obtenir une occasion de marquer, une chance au filet. Puis il a quand même un bon gabarit également. Je pense, honnêtement, je dirais que dans le cas d'Olsson, je ne suis pas tant surpris. C'est un choix de premier tour qui débarque dans la OHL avec quand même une bonne équipe. Donc, je ne suis pas nécessairement surpris de le voir dominer, mais c'est plaisant de voir ça, surtout pour, pas pour moi, parce que je suis un partisan des Wild, mais pour les partisans de l'Avalanche. Pour eux, c'est intéressant à voir. Je pense que ça peut devenir un beau complément éventuellement sur un deuxième trio lorsqu'on va avoir des opportunités derrière un Landeskog, Rantanen. Là, je pense qu'un gars comme Olofsson peut être parfait. Dans le cas de Brent Clark, j'avais énormément hâte de le suivre. Comme tu dis, je l'avais deuxième dans ma liste. Je l'adorais beaucoup. Je l'avais promis très longtemps jusqu'à ce que Owen Power le coiffe juste un petit peu. Puis honnêtement, j'ai vraiment été impressionné. J'ai été satisfait. C'est ce que je m'attendais. Il a été dominant. Encore une fois, montré à quel point il a un sens du hockey incroyable. T'sais, positionne souvent la rondelle d'une façon pour l'éloigner de l'adversaire. Par la suite, ça lui donne une meilleure angle pour effectuer une passe ou tout simplement se sortir de la pression. T'sais, ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. Et ce que ça me laissait, ce que je me disais aussi dans le cas de Brent Clark, souvent les gens critiquent son coup de patin. OK, il n'est pas le plus fluide, pas le plus explosif. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est tellement intelligent qu'il va toujours être capable d'esquiver la pression, même s'il n'a pas le meilleur coup de patin. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ah oui, je comprends parfaitement.
C'est ça. Je pense que, un peu comme Nick Suzuki le fait à Montréal, là, il va compenser son manque de patin par son intelligence. Ça, c'est mon impression.
C'est combien. Hein? C'est pas grave la façon que tu patines. Tant que tu te rends avec un minimum d'effort, moi, j'ai pas de problème avec ça.
Non, exactement. Le but, c'est pas d'être emprêtré dans ta zone puis que la rondelle ne sort pas. Mais lui, il est tellement intelligent qu'il trouve quand même une façon de sortir la rondelle. Et pour le côté offensif, en avantage numérique, ben, c'est du bon vieux Brent Clark. Prend la rondelle, s'assure d'attirer un adversaire pour libérer les lignes de passe. De temps en temps, pas peur d'envoyer la rondelle au filet. T'sais, le sens offensif est là également, puis le gabarit est là. Donc je pense que c'est peut-être sa dernière saison dans la OHL. Je pense que si... Puis là, on parle d'un joueur qui a eu une mononucléose pour commencer la saison. Il n'a pas joué les premiers matchs à Barry. Donc moi, honnêtement, si sa progression continue comme ça, je ne suis pas certain qu'il va être dans la OHL la saison prochaine. Je pense que ça va être directement à Los Angeles.
Il pourra même signer à la fin de l'année.
Mais il y a déjà un contrat, en fait. Mais je veux dire...
Non, mais je veux dire, disputer des matchs là, dans la Ligue nationale de cette saison, penses-tu que c'est possible?
Ah oui, absolument, absolument. T'sais, si on va voir ce qui va arriver avec les Coles de Barry. Ils ont une bonne équipe, par contre. Mais s'ils se font surprendre, parce que la OHL, c'est une ligue qui est très relevée, ça arrive souvent des surprises. Ben oui, c'est possible. Honnêtement, je pense qu'il est capable de... Tu sais, s'il n'y avait pas eu la mononucléose, justement, je pense qu'il aurait pu rester pas mal plus longtemps qu'on pense au camp des Kings. Je pense qu'il aurait été retranché quand même. Mais il aurait pu rester pas mal plus longtemps qu'on pense, je pense. Et ça veut dire que moi, selon moi, oui, t'as raison. Je pense qu'il... Je serais pas surpris de le voir finir la saison avec les Kings, honnêtement.
Surtout que les Kings, en tout cas, ça reparlera, là, mais je m'attends pas à ce qu'ils soient compétitifs nécessairement. Donc, pourrait ne pas intégrer l'équipe comme un Cal Makar l'a fait il y a quelques années, mais plus, venir prendre de l'expérience avec nous pour une année de contrat. Puis on passe à autre chose à ce niveau-là. Mais on voit que sa mononucléose l'a vraiment affecté. Là. Lui qui a 12 points en 8 parties pour un défenseur depuis le début de la saison. Donc évidemment, là, il surpasse les attentes des causes de Barry. Ça, j'en suis convaincu.
Ou du moins c'est simplement ce à quoi on s'attendait. Parce que Brent Clark, c'est quand même un espoir.
Les attentes étaient bien hautes alors.
Exact, exact. C'est objectif, ben, c'est simplement 8 matchs, mais ça va bien jusqu'à maintenant.
Bon, une cinquantaine de minutes plus tard, Marty, ça fait le tour pour la portion OHL. Donc, ce sera un peu ce qu'on va faire à chaque semaine. Vraiment, on va analyser en profondeur une ligue pour essayer là, justement d'aller dans les joueurs que... C'est un peu ça l'intérêt. On veut se mouiller avant même que les joueurs deviennent les sujets de l'heure. Nous, on veut y aller d'un premier jet. On tente de vous éclairer avec des joueurs qui sont un peu plus méconnus. Bon, on a fait le tour de la OHL, mais je pense que c'est quand même important de faire un petit volet d'actualité tout de même. Un des très gros noms les plus médiatisés du prochain repêchage, et je pense qu'on en parle pour une quatrième semaine de suite, c'est Brad Lambert. Et là, Brad Lambert, quand même... Je vais aller de l'expression une claque au visage. Là. Il n'a pas été retenu par la Finlande pour le tournoi des Quatre Nations. Marquis, ça ne veut pas nécessairement dire un désaveu envers Brad Lambert. Il devrait tout de même participer au traditionnel là, championnat mondial junior là, durant le temps des fêtes. Mais c'est quand même une claque au visage de voir que tu n'es pas retenu alors que tu es projeté un espoir top 5 au prochain repêchage.
Ouais, ben en fait, ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, là, semble-t-il, c'est que la Finlande veut justement lui envoyer un wake-up call, si tu veux, de dire, OK, ta place avec l'équipe finlandaise des moins de 20 ans n'est pas assurée. Là. N'est pas assurée. Là. C'est comme, il va falloir que tu travailles beaucoup plus fort, il va falloir que tu produises davantage parce que ça se peut qu'on ne te retienne pas. Et la Finlande, pas plus tard que la saison dernière, ils n'ont pas eu peur de couper des joueurs avec de hauts statuts qu'on se serait attendu à voir faire l'équipe. Je pense à un Patrick Pustola qui avait un excellent championnat mondial des moins de 20 ans. Je pense que c'était pratiquement un point par match. Il n'a même pas fait l'équipe. Là, on s'entend. Là, quelqu'un qui a dominé dans le tournoi, même pas participé avec l'équipe parce que ses performances dans la Liga finlandaise n'étaient pas jugées suffisantes. Et rappelle-toi d'Atu Ratu la saison dernière. Mm-hmm. Tout le monde le plaçait premier au total à peu près il y a un an à peine. Finalement, ben, à raison d'une saison, d'un début de saison quand même difficile avec Karpat, ben, il n'a pas fait l'équipe non plus, alors que c'est un joueur qui jouait dans la Liga finlandaise depuis 2 ans à 16 et 17 ans. Là. Donc, je veux dire, le message est là pour Brad Lambert. Tu dois te prendre en main, tu dois en montrer davantage offensivement. Tu sais.
Mais autant je lance des fleurs à la Liga pour bien développer l'aspect défensif des joueurs. Un gars comme Lekkonen, on voit que ça veut vraiment payer. Le joueur est arrivé dans la Ligue nationale, il était prêt. Autant ça semble être une ligue qui a de la misère à développer les joueurs de talent. Ça se peut-tu, ça, Marty, que c'est comme pas un bon modèle pour ceux qui sont bourrés de talent, qui ont des attitudes offensives? On aurait dit que ces joueurs-là sont tout le temps un peu étouffés en Liga. C'est-tu possible, ça?
Je suis pas d'accord avec toi, honnêtement. Je suis pas d'accord. Honnêtement, il y a quand même des joueurs. Tu sais, Alexander Barkov, c'est un produit de la Liga. Tu sais, ton Anton Lundell qui joue avec les Panthers en ce moment, qui a été très productif. Tu sais, je pense que ça a même changé dans les dernières années. Tu sais, je pense que tu n'as pas tort de dire qu'il y a une dizaine d'années, le modèle de développement finlandais était très calqué sur... sans dire que c'est calqué sur le modèle canadien, mais on aimait beaucoup l'aspect de « tu dois travailler fort, tu dois compléter tes mises en échec, tu dois travailler
être sans... » responsable.
Tu dois être responsable défensivement, tu dois travailler sans relâche. Mais pour avoir lu un texte, à un certain moment, là, je pense que sur une période de 5 ou 6 ans, les meilleurs joueurs finlandais qui se retrouvaient dans la LNH, c'était des joueurs comme Tuomo Ruutu ou Leo Komarov. Et là, c'est là qu'ils se sont dit « OK, il faut changer quelque chose. Il faut laisser davantage de la place à des joueurs peut-être moins talentueux défensivement, peut-être moins de caractère, qui aiment plus se laisser, qui aiment plus s'exprimer offensivement, montrer davantage leurs aptitudes offensives. Dans le fond, développer de joueurs un peu plus de moules différents. Et là, ça a apporté un Patrick Laine, par exemple, qui n'est pas très bon défensivement, mais quand offensivement, c'est de la dynamite. Tu sais. Je pense simplement que la Liga finlandaise t'aide à travailler davantage ton jeu défensif, comme justement par tradition, c'est quelque chose d'assez important. Et là, spécialement chez les centres, je pense.
Si Brad Lambert, jusqu'à preuve du contraire, ne participera pas au tournoi des Quatre Nations. Tout le monde s'attendait à ce que Joachim Kemmel, ce soit son cas, lui. Mais là, surprise, un peu plus tôt, je pense que c'est hier soir que c'est tombé, Kemmel est blessé, il devra s'absenter pour 3 à 4 semaines, donc ne participera pas au tournoi. Est-ce que tu penses que ça va affecter son jeu parce qu'il avait un début de saison absolument hallucinant? Penses-tu qu'il va reconnaître une certaine baisse de régime lorsqu'il va revenir au jeu?
Ben, je pense pas. Je pense que ce n'est pas nécessairement inquiétant. Une blessure à l'épaule, c'est moins inquiétant qu'une blessure aux chevilles ou aux poignets. Là, ça, parfois, ça peut être difficile. Là. Spécialement des blessures aux chevilles. Parfois, tu perds de la vitesse, tu perds de la mobilité. Là. Non, je ne suis pas nécessairement inquiet. C'est 3-4 semaines. Puis je pense également que... Je vais prendre l'exemple d'Anton Lundell. Anton Lundell, à son année de repêchage, s'était blessé pendant le championnat mondial d'hockey junior. Il n'avait pas pu participer. Sans dire que ça lui a nuit, certainement que ça a été une carte de visite qu'il n'a pas pu laisser. Tu sais, s'il avait pu jouer contre les moins de 20 ans, puis qu'il avait été dominant, qu'il avait montré qu'il était bon défensivement, puis qu'il avait apporté des points au tableau, je pense qu'Anton Lundell serait peut-être ressorti pas mal plus tôt que le rang où il a été repêché par les Panthers. Et il n'aurait pas eu tous les doutes à son endroit pour savoir « Ah, c'est un futur joueur de troisième trio, il ne produira jamais. » Tu sais. Je pense qu'il aurait sorti plus tôt que 12e. Donc, au moins dans le cas de Kemmel, visiblement, il va être, en tout cas, je pense qu'il va revenir environ vers début décembre. Donc, je pense que ça lui laisse le temps de revenir pour le championnat mondial d'hockey junior. Je pense que dans son cas, c'est la meilleure nouvelle. Surtout qu'on commence à en parler davantage dans le top 5 avec les meilleurs espoirs. S'il veut être capable de rivaliser avec Shane Wright, justement, ben, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de jouer contre Shane Wright. Un match Finlande-Canada où tu domines, tu obtiens 2 ou 3 points, tandis que Wright, c'est plus difficile. C'est peut-être là que tu peux gagner des points.
Ah, tu vas ouvrir bien les yeux à des recruteurs. Ça, c'est évident. Marty, ça fait le tour de la portion actualité, à moins que tu avais un autre point à nous soulever.
Ben, plus d'avantages de Brad Lambert. Tu sais, les gens vont comparer les statistiques, vont dire « OK, Brad Lambert a seulement 2 points, tandis que l'autre domine complètement dans la Liga. » Bon, pourquoi cette raison-là? Puis on entend parler quand même que les gens placent Lambert devant. Et je pense qu'il faut regarder les matchs également. Puis j'adore le Joachim Kemmel, il a un très beau sens offensif. Mais Brad Lambert, c'est quand même un joueur de gros gabarit. C'est un joueur qui patine bien, c'est un joueur qui a de bonnes mains, c'est un joueur qui se place bien défensivement. Je veux dire, pour les qualités athlétiques, si tu veux, il y a à peu près tout. Il ne faut pas négliger ça non plus. Il y a de bonnes mains. Et puis, tu sais, le détail qui est important à noter entre les deux, je pense, c'est que Joachim Kemmel joue à l'aile, puis Brad Lambert joue au centre. Puis là, on peut comparer les statistiques de Lambert dans la Liga la saison dernière, mais il joue à l'aile. Je pense que, tu sais, quand on parle de développement, apprendre les choses défensivement, on l'a placé à l'aile tout d'abord, Brad Lambert. Parce que là, tu débarques dans la Liga et tu dois tout d'abord te tremper les pieds dans la piscine, si tu veux. Là. Et par la suite, aussitôt que ça c'est fait, que tu sais un peu plus à quoi t'attendre, là, si tu veux le faire jouer au centre, tu sais, les assignations défensives entre un joueur d'ailier et un centre, c'est complètement différent. Les gens sous-estiment à quel point c'est pas mal plus complexe de jouer au centre. À l'aile, là, tout simple, ce que tu as à faire, c'est couvrir ta pointe en défense. C'est à peu près tout ce que tu as à faire. Et tu restes à peu près dans ton couloir. Tu laisses justement les défenseurs et le centre faire le travail pour t'amener la rondelle. Là, par la suite, tout ce que tu as à peu près à faire, c'est de créer des jeux de transition puis créer de l'attaque. C'est beaucoup moins compliqué. Tandis qu'au centre, là, tu joues sur 200 pieds. Tu dois appuyer tes défenseurs. Tu dois fermer l'espace au bon moment. Tu dois te replier au bon moment. Tu ne peux pas rater ta couverture parce que des fois, tu vas échapper à un joueur qui va être tout seul. C'est ça la grosse différence. Et je pense que Brad Lambert, présentement, puis c'est pour ça que j'ai hâte de voir les prochaines semaines dans son cas. Plus il va être à l'aise défensivement, plus peut-être il va se sentir à l'aise d'en montrer offensivement. Et là, peut-être qu'on va voir une explosion. Tu sais, je veux dire, si tu t'attardes davantage à ton jeu défensif, ta concentration est là-dessus, c'est peut-être normal que tu vas peut-être oublier un petit peu plus comment attaquer le filet, comment décocher des lancers. T'sais. Je pense que j'aime bien Kemmel quand même. Présentement, je le place quand même devant Lambert. Mais je pense que c'est un côté-là à noter là, dans le cas de Brad Lambert, là, qu'il apprend une position à jouer au centre tandis que l'autre, on n'a pas à faire ça. T'sais.
Ouais, puis il y a quand même aussi... Je le sais que l'échantillon devient de plus en plus imposant, là, mais ça reste que parfois, c'est pas de sa faute à Lambert. C'est ses coéquipiers qui vont... pas être en mesure de comprendre ses jeux. Des fois, ça peut être un mauvais but du gardien qui explique qu'il obtient -1. Il y a quand même plusieurs facteurs. Il joue pas mal en ce moment. C'est juste qu'il n'y a pas de points. Je pense qu'il ne faut pas lancer la pierre à Lambert. Puis, arrêtez-moi ça, là, que Lambert va glisser en bas du top 15. Du moins, pour l'instant, moi, je m'attends à ce qu'il se ressaisisse et qu'il ressorte quand même relativement tôt au repêchage. Je ne m'attends pas à ce que ce soit un atout 2.0. Là.
Non, c'est ça, absolument pas. Mais tu sais, faut pas oublier non plus que la Liga finlandaise, c'est quand même une ligue d'hommes. Il y a quand même des anciens de la LNH dans cette ligue-là. C'est une ligue qui peut être quand même difficile. Là. Surtout, donc, c'est un joueur de 17 ans puis tu domines pas la Liga finlandaise, c'est pas la fin du monde. Là. Il y a pas une possibilité de se démarquer de plein d'autres façons. Là. Je pourrais, tu sais, Sébastien Aho, de mémoire, à 17 ans, c'était pas un grand joueur là, dans la Liga. Peut-être que même qu'il jouait pas en Liga, il faudrait que je retourne voir, là. Mais de mémoire, là, c'était pas. Il n'y avait pas eu la saison à Alexander Barkov. Tu
sais. Ouais, puis on connaît le joueur que Sébastien Aho est aujourd'hui, un joueur dominant dans la Ligue nationale de hockey. Un joueur qui, c'est pas pour rien que le Canadien de Montréal lui avait fait une offre hostile. C'est un joueur qui peut changer à lui seul à l'issue d'une rencontre. Donc, effectivement, ça ne veut pas tout dire nécessairement les statistiques là, dans la Liga finlandaise.
Mais tu sais, je lisais les statistiques de Sébastien Aho, là, ici, là, 11 points en 27 matchs dans la Liga avec Carpath, avait été prêté brièvement à Sat Pori, avait obtenu 2 points en 3 matchs. Bon, c'est pas mauvais, mais on s'entend que si tu regardes ça sur un point de vue statistique, tu peux être découragé et dire « je vais le repêcher au deuxième tour ».
Exact. Marty, ça fait le tour pour la portion actualité. On va y aller de notre rubrique « Esport du Canadien ». On aimerait ça en faire au moins un par semaine. Ici, des fois, il y a des semaines que ça se prête d'en faire plus. On en fera plus, mais on ne veut pas non plus axer trop sur le Canadien de Montréal. Et c'est la raison pour laquelle on ne vous a pas parlé de Cole Caulfield qui a été retourne à Laval. Pas parce qu'on tente de maquiller la réalité, pas parce qu'on pense que c'est un des meilleurs attaquants, là, puis qu'on veut vraiment lui lancer des fleurs. C'est pas ça du tout. C'est juste que tout le monde voit les matchs des Canadiens de Montréal. Tout le monde, vous ouvrez TVA Sport, vous ouvrez RDS, vous ouvrez TSN, tout le monde en parle. Vous n'avez pas besoin de nous pour vous renseigner sur Cole Caulfield. Je pense que Marty était d'accord là-dessus, que ce n'était pas un sujet qu'on avait nécessairement besoin d'aborder aujourd'hui.
Non, ben comme tu dis, je pense que les gens sont capables de se faire leur opinion à la maison. Tout le monde le voit, peut-être pas du côté de Laval, mais du côté de Montréal. Les gens le voyaient jouer tous les deux jours. T'sais. On n'a pas besoin de sortir un tableau sur les chances de marquer générées lors des meilleurs dans la LNH pour montrer que pour prouver le point sur Cole Caulfield et de l'appuyer. Je pense que tout le monde fait capable de faire leur opinion, que les gens voient ce qu'ils ont à voir. Donc, c'est ça. Je pense que ça dit tout.
C'est la raison pour laquelle on a tout simplement décidé de ne pas en parler aujourd'hui. Puis pour les gens qui vivent sous une roche, eh bien oui, Cole Caulfield de retour à Laval. Mais Marty, l'espoir du Canadien que j'aimerais qu'on parle, et ça, je suis vraiment content parce que c'est un beau projet, c'est Sean Farrell. Sean Farrell, l'année dernière, avec le Chicago, j'avais l'impression que, tu sais, ouais, mais Mathieu Coronato, ouais, mais club boosté, oui, beaucoup de points, mais ça va plus être difficile l'année prochaine à Nancy, et ça va affronter des hommes, ça va être plus robuste, puis lui, c'est quand même un joueur de talent, mais il n'est pas très gros. Puis là, j'étais comme, comment il va réussir à se débrouiller à l'étape supérieure? Eh bien, là, non seulement il a dominé dans les matchs préparatoires, mais là, la saison régulière a commencé à Nancy et à Hartford depuis le début de la saison en deux parties. Il a 7 points. Marty, est-ce que c'est le temps de s'emballer dans le cas de Sean Farrell?
Ben écoute, je vais simplement te rappeler que tu nous avais demandé s'il ferait 13 points dans l'NCA à peu près à l'hiver dernier. Je suis obligé de te dire que je pense que la réponse va être oui.
Je pense aussi.
Il y a des bonnes chances. Et tu sais, en plus, si tu prends ces deux matchs préparatoires, c'est 11 points en 4 matchs. Donc, c'est quand même pas mauvais. Je pense qu'il y a un bémol à porter. Par contre, là, il jouait contre Bentley et contre Dartmouth College. On ne parle pas nécessairement de très, très grosses universités qui développent des joueurs de la LNH sans compter. Là, ce n'est pas des grosses puissances. Je pense que c'est un petit peu normal qu'il a dominé. Je vais attendre de voir qu'il joue contre des Boston University, des Boston College, des Northeastern, avant de dire « OK, c'est de la vraie dynamite ». Je pense qu'il y a un bémol à apporter à ce qu'on vient de voir. Cela dit, il y a des très, très belles choses. J'ai regardé son match, puis honnêtement, en avantage numérique, c'est déjà un maître. En avantage numérique, là, il y a une vision de jeu incroyable. C'est lui qui contrôle l'avantage numérique. Il y a les yeux tout le tour de la tête. Si un joueur qui est libre, il va le repérer, vous pouvez être garanti. Puis, tu sais, le match que j'ai vu, c'était contre Dartmouth College et il obtient une aide, je pense que c'est Coronato qui a marqué justement, puis il fait un lancer sur réception, puis là on s'entend à quel point c'est difficile de placer un tir sur réception par moment. Ben, il fait par exprès d'envoyer son lancer sur la palette à Coronato qui lui est devant le filet. Coronato glisse la rondelle. Tu sais, ça c'est un jeu de gars d'élite. Tu sais. Je pense qu'il doit travailler des petits détails vraiment mineurs, mais des choses importantes pour la LNH. Je pense qu'il doit bouger davantage ses pieds en zone neutre, par exemple. Je le trouve un peu trop statique. Je pense qu'il va devoir travailler ça pour... tu le sais comme moi, la LNH, c'est un jeu de transition. Là, le passage de la zone défensive à la zone offensive va très rapidement. Il ne peut pas se permettre de se traîner les pieds et d'être pratiquement immobile en zone neutre. C'est certain que l'entraîneur-chef va lui répéter ad nauseam. Donc ça, il y a ce petit côté-là. Je pense que physiquement, il y a peut-être un petit peu de détails à travailler également, même si honnêtement, pour son gabarit, il n'est pas si mauvais que ça. Ça arrive, il se fait frapper, mais il absorbe quand même bien les mises en échec, puis il ne se fait pas sortir du jeu complètement, puis il retourne au banc parce qu'il est... parce qu'il est mal en point. Et défensivement, il joue quand même bien. C'est un joueur qui joue en désavantage numérique, tu sais, comparativement à un Cole Caulfield. Caulfield, je ne suis pas certain que tu l'utilises en désavantage numérique. Mais Sean Farrell, lui, il est là, puis il se positionne quand même bien, il joue bien. Là, donc, c'est à suivre, mais honnêtement, c'est certain que c'est... Simplement, pour le point de vue de l'avantage numérique, c'est très, très encourageant. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines.
Ben, honnêtement, il va être intéressant à surveiller. Ça pourrait être un des deux très bons coups du Canadien de Montréal en quatrième ronde en 2020 avec Blake Biondi. Ça va être vraiment, vraiment cool. Moi, honnêtement, sans dire que je n'y croyais pas, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile dans la NCAA. Pour l'instant, peut-être dans des circonstances favorables, il a la main heureuse. Espérons que ça se poursuive et que la progression continue, mais il va être le fun, Sean Farrell. C'est un beau projet pour les Canadiens.
Tu sais, ce quatrième tour-là là, chez les Canadiens de Montréal en 2020, là, je pense que c'est... on va peut-être en parler longtemps, parce qu'avec Biondi puis Farrell, moi, je trouve que c'est deux excellents joueurs, peut-être même des vols. Là. J'aurais fait les mêmes sélections, j'adorais les joueurs au même titre. Là. Je pense que ça peut être vraiment payant, puis je pense qu'on le voit un peu là, depuis le début de la saison. Biondi va bien à Minnesota Duluth, puis la même chose pour Farrell du côté de Darvert.
Et pour les gens qui, à la maison, nous crient là après pour nous dire que le Canadien a aussi repêché Jack Smith en quatrième ronde en 2020, mm-hmm. Ce sera pour un autre podcast puisque Jack Smith, lui, c'est un petit peu plus difficile. Donc,
je l'aime un peu moins.
mais c'est bien correct. Marty, j'espère que tu as apprécié notre nouvelle formule. J'espère que les gens à la maison, vous avez apprécié notre nouvelle formule. Ça va être comme ça chaque semaine. La semaine prochaine, on s'attaque à la WHL. Plusieurs gros espoirs dans la WHL. Connor Geeky, Mathieu Savoie, ce seront notamment des espoirs de premier plan pour le prochain repêchage.
Bien hâte de parler du Ice de Winnipeg, justement, l'équipe de Savoie et de Connor Geeky. Les gens qui suivent le hockey junior, là, surveillez-les, c'est peut-être les favoris pour la Coupe Memorial. On n'en dit pas plus.
Donc ça, ce sera intéressant. On va y aller. Évidemment, Geeky et Savoie, ce sont les joueurs qu'on entend, ce sont les joueurs qui résonnent déjà, mais on va y aller avec beaucoup plus de profondeur. On va encore, comme aujourd'hui, faire une dizaine de joueurs de la WHL. On espère que vous êtes avec nous. En attendant notre prochain podcast, on vous invite à suivre notre page Twitter, podcast La Relève. Quotidiennement, Marty vote ses takes, il vote son opinion sur les différents joueurs qu'il voit, sur les joueurs qui évoluent un peu partout à travers la planète. On vous invite à suivre ça. Puis en attendant, Marty, on se dit à la semaine prochaine.
On se dit à la semaine prochaine, certains. J'ai très hâte de parler de tous les espoirs de la WHL. Puis comme à toutes les semaines, on aime vous jaser espoir, peu importe partout dans le monde.
À mon nom personnel et en celui de mon chat Bruno, je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao.